Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 20, Daf Kaf. Bonne écoute et bon limoud.
Nishalin Alea, on devra aller au tribunal pour poser la question. C'est-à-dire que on ne dise pas que c'est clair, étant donné que c'est un ustensile et qu'on ne peut pas lui poser la question, que il est pur, mais on devra aller au tribunal poser la question, car il existe des cas où c'est pur, et il existe des cas où c'est impur. Afelu bikli amunach al gabe kaka, même si c'est un ustensile qui est déposé par terre et que personne n'a touché, et on a un doute, par exemple, si une personne qui avait un reptile dans la main est passée et l'a touché, bien que personne n'utilisait cet ustensile, personne ne travaillait avec lui, malgré cela, on devra quand même aller poser la question, que davar sheyesh bo da'at lishael, comme si c'était une chose qui a, oui, suffisamment de raison pour qu'on lui pose la question. Et donc, puisque c'est ainsi, le couteau, puisque l'impureté du couteau provient du fait que le Kohen a utilisé ce couteau, donc ça s'appelle une impureté qui est venue par l'intermédiaire du Kohen. C'est un doute sur une impureté qui est revenue par l'intermédiaire du Kohen. Et donc ça, dans un cas pareil, nous disons qu'il faut aller poser la question. Et si c'est dans le domaine public, alors c'est pur, comme nous avons dit, que chaque doute qui naît dans le domaine public à propos d'impureté, nous le considérons comme étant pur. Si c'est dans le domaine privé, alors c'est impur. C'est pour cela que ce couteau, si nous considérons la Hazara comme un domaine public, alors il est pur. Si nous considérons la Hazara comme étant un domaine privé, il est impur, car c'est un doute sur une impureté dans le domaine privé. Nous avons fini ici le shiur de Daf Yutet. Nous commençons Be'ezrat Hashem, le shiur de Daf Kaf. Nous avons vu dans le shiur précédent que si lorsqu'on trouve dans un sacrifice qu'on a abattu, si on trouve dans la chair une aiguille, alors nous considérons que la chair est impure, et nous avons vu dans le shiur précédent pourquoi, et que le couteau et les mains du Kohanim qui ont abattu la bête, et du Kohen qui ont abattu la bête, elles, on les considère pures. Alors maintenant, la Gemara revient sur ce que nous avons dit. Nous sommes Daf Kaf, Amud Alef, seconde ligne. Ve'abassar tamé. Et la chair du sacrifice est impure. La Gemara demande, Hay Bassar, cette chair, d'it kasher bemaï, comment elle a été rendue apte à devenir impure? C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu dans les shiurim précédents, chaque nourriture, et donc dans ce cas-là, la chair du sacrifice qui est de la viande, pour devenir impure, il faut qu'auparavant, il ait été mouillé. Ça s'appelle la harshara, rendre apte à devenir impur. Alors la Gemara demande, cette chair, c'est-à-dire cette chair du sacrifice, avec quoi elle a été mouillée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a rendue apte à devenir impur? Alors la Gemara demande, inimadit kashir bedam, si nous allons dire que la chair est devenue apte à devenir impure à cause du sang qui était dans la bête, et le sang est un des liquides qui permet de devenir impur. Ve'amar Rabbi Abaraba Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Abaraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, minayin ledam kochim sheno machshir. D'où savons-nous que le sang des sacrifices ne rend pas apte à devenir impur? Et donc, dans notre cas, il ne pourra pas rendre apte la chair de ce sacrifice à devenir impur. Sheneema, comme il est dit, L'otochelenu, à la arête, ispechenu kamain. À propos du sang, il est dit, tu ne le mangeras pas, sur la terre, tu le jetteras, tu le verseras, comme de l'eau. Et de là, nous apprenons, dam, shenishpar kamain, marchir. Le sang, que l'on a le droit de verser comme de l'eau, alors il rend apte à devenir impur, car ça, c'est considéré comme étant du sang. Veshenon, nishpar kamain, mais que l'on ne peut verser à terre comme de l'eau, et non marchir, il ne rend pas apte à devenir impur. Or, le sang des sacrifices, il y a une mitzvah de le recevoir dans un ustensile afin de le jeter sur l'autel. Donc, ce sang ne s'appelle pas du sang qu'on a le droit de verser à terre. Et donc, un sang pareil, puisqu'on n'a pas le droit de le verser à terre, il ne rend pas apte à devenir impur. Alors, ma réponse, elle, la deit kashir, bemashke bemitbachaya. Alors, nous allons peut-être dire que la viande de cette bête que nous avons abattue est devenue impure par l'intermédiaire d'un des liquides qu'il y avait à l'abattoir. C'est-à-dire que, à l'abattoir du temple, il y avait plusieurs liquides, de l'eau ou du sang, et un de ces liquides a touché la chair de ce sacrifice, et après cela, on a découvert l'impureté, donc c'est comme cela que ça le rend apte à devenir impur. Alors, ma demande, pourtant, Rabbi Yossi Bar Hanina a dit, Mashke bet mitbachaya, les liquides de l'abattoir du temple, lo dayan shen dachan, ce n'est pas seulement qu'on les considère comme étant purs, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas l'impureté, et la shen marchim, mais de plus, ils ne peuvent pas rendre apte à devenir impur. Donc, à nouveau, revient la question. Comment cette viande est devenue apte à être impure? Alors, ma réponse, elle a d'être cachère, bechibat akodesh. Nous disons que cette viande est devenue apte à être impure grâce à ce qui s'appelle la chibat akodesh, l'affection des choses saintes, l'estime que l'on porte aux choses saintes. Et à cause de cette estime, alors nous disons que toutes les choses saintes deviennent aptes à être impures, même si rien ne les a mouillées avant. Et donc c'est pour cela que la viande de ce sacrifice, qui est une viande sainte, alors grâce à cette estime que l'on porte aux choses saintes, alors même si elle n'a pas été mouillée auparavant, malgré tout, elle est apte à devenir impure, et donc automatiquement, à cause de cette aiguille qui elle-même est impure, cette viande devient impure. Alors l'agma demande, « Imur demanye lechibat akodesh leisou legoufe » Nous pouvons peut-être dire que l'estime que l'on porte aux choses saintes, alors ça rend apte à devenir impur, mais pour être pas soul, c'est-à-dire pour être impur sans pouvoir faire passer l'impureté. Mais est-ce que ça, nous allons apprendre de là que ça rend pas soul au point que ça peut faire passer l'impureté au premier et au second degré? Or, nous avons vu que la viande est appelée tamé, impure, et elle peut rendre impure. Elle n'est pas appelée pas soul. Alors, ma répond, en effet, oui, c'est comme cela. Et Tifshot débat Resh Lakish. Grâce à ça, on peut trancher le doute qu'avait Resh Lakish. Car Resh Lakish avait un doute sur le cas d'un Tsarid Shel Menachot. Lorsqu'on amenait des oblations, s'il restait une partie de l'oblation sèche, c'est-à-dire qu'on amenait de la farine, sur cette farine, on versait un peu d'huile. Alors, une partie de l'oblation restait sèche. Alors, qu'en est-il? Cette partie de l'oblation qui reste sèche, alors elle n'a été mouillée par rien du tout. Donc, en fait, la seule chose qui la rend apte à devenir impure, c'est Chibat HaKodesh, l'affection que l'on porte aux choses saintes. Alors, Resh Lakish, j'avais un doute. Est-ce que cette Chibat HaKodesh, est-ce que ça rend juste pas soul, impur, sans faire passer l'impureté? Ou alors, Monim Bo Rishon Vesheni? Est-ce que ça rend pas impur au point que on peut compter après une impureté au premier et au second degré, c'est-à-dire que ça rend impur et que ça devient impur et ça fait passer l'impureté, ou peut-être que pas, que ça devient impur, mais ça ne peut pas faire passer l'impureté, c'est que pas sous. Alors, Resh Lakish, j'avais un doute là-dessus. Et donc, de notre sugya, de notre étude, nous apprenons que Chibat HaKodesh, l'affection que l'on porte aux choses saintes, rend impur au point que ça la peut faire passer l'impureté. Puisque nous voyons que la viande de ce sacrifice est appelée tamé, impure, et qu'elle fait passer l'impureté, et qu'elle est devenue apte à être impure à cause de Chibat HaKodesh, l'affection que l'on porte aux choses saintes. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, une autre raison comment cette viande est devenue apte à être impure. Kegon Shaita Para Shel Sifrei Shlamim. On parle par exemple, c'était une vache d'un sacrifice chez Shlamim. Vevira Benar, et l'a fait passer dans un fleuve ou dans une rivière avant de l'abattre. Veshachata, et il a abattu. Veadain Mashket Ofeachalea, et il y a encore du liquide, c'est-à-dire de l'eau de cette rivière qui coule sur elle. C'est-à-dire immédiatement après l'avoir fait passer dans la rivière, il l'a amené au temple et il l'a abattu. Donc en fait, la vache est encore mouillée. Et donc c'est ce liquide-là qui rend la viande à être apte à devenir impure. La Gemara maintenant revient sur un passage de la Braïta que nous avons vu plus haut. Nimtzed baferesh, si cette aiguille a été trouvée dans les excréments, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore dans la bête, à koltor, tout est pur. C'est-à-dire la viande, le couteau et les mains du Kohen, rien n'est devenu impur. Alors, Gemara demande, Beniader Peresh, Benitme le Bassar. Pourquoi ne disons-nous pas que les excréments dans lesquels on a trouvé l'aiguille, et donc l'aiguille a rendu impur ces excréments, rendent impurs eux-mêmes la viande, puisque eux, ils touchent la viande. Azama Ravada Barava, Ravada Barava nous dit, mais Peresh avait, ici nous parlons des excréments épais. C'est-à-dire, au début, la Gemara pensait que c'était des excréments liquides. Et de même que des liquides peuvent rendre impur de la nourriture, alors de même, ici, ces excréments devront rendre impur la viande. Alors Rabbi Abba Rava répond ici que nous parlons des excréments épais, et donc ils ne sont pas considérés comme étant des liquides, c'est pour cela qu'ils ne peuvent rendre impure la viande. Rabbi Shi nous dit, même si tu me dis que c'est des excréments qui sont encore liquides, Mishum d'ave mashke sawar, car nous considérons ces excréments comme un liquide qui a pourri, et les liquides qui ont pourri, comme nous l'avons expliqué plus haut déjà, ne peuvent rendre impur. C'est pour cela que ça ne rend pas impur la viande. Tanetana kameder Rav Sheshet. Un enseignant de Braïta a enseigné devant Rav Sheshet. Sheretz metame et amashkin. Les reptiles rendent impurs les liquides. Ou mashkin metamim et akeli. Et les liquides rendent impurs les ustensiles. C'est-à-dire le liquide qui a été touché par un reptile rend impur l'ustensile. Vekli metame et akeli. Et à nouveau, cet ustensile rend impur la nourriture. Vekli metame et amashkin. Et à nouveau, cette nourriture rend impur des liquides. Velamanu shalosh tumot besheretz. Et donc, nous voyons d'ici qu'un reptile peut entraîner après lui 3 degrés d'impureté. Alors, la Gemara demande immédiatement, ané arbaen. Ici, il n'y a pas 3 degrés, il y a 4 degrés. C'est-à-dire que le sheretz de reptile a rendu impur les liquides, c'est un premier degré. Les liquides ont rendu impur l'ustensile, c'est un second degré. L'ustensile a rendu impur la nourriture, c'est un troisième degré. Et cette nourriture a à nouveau rendu impur des liquides, c'est une impureté au quatrième degré. Donc nous voyons qu'il y a 4 degrés d'impureté. Ragma répond, goz mashkin de reisha. Alors en effet, il faut enlever de cette braïta, et ce que nous avons dit la première fois, que le reptile rend impur des liquides. Mais dire directement que le reptile rend impur un ustensile. Et donc à ce moment-là, il y a 3 degrés. Le reptile rend impur l'ustensile, c'est un degré. L'ustensile, la nourriture, c'est le deuxième degré. Et la nourriture, les liquides, c'est un troisième degré. Ragma demande, Adéraba, goz mashkin de sefa. Au contraire, enlevons les mashkin, les liquides qui sont cités à la fin de la braïta. Pourquoi enlevons ceux qui sont cités au début de la braïta? Pourquoi ne disons-nous pas que le reptile rend impur les liquides, c'est un premier degré. Le liquide rend impur les ustensiles, c'est un second degré. Et l'ustensile rend impur la nourriture, c'est un troisième degré. Et ne mentionnons pas que les nourritures rend impur les liquides, c'est-à-dire le quatrième degré que nous avons mentionné. Ragma répond, Lo ashkechan tana damar mashkin metamim kelim et la Rabbi Yehuda. Nous n'avons pas trouvé de tana qui dit que les liquides ont la possibilité de rendre impurs les ustensiles, seulement d'après Rabbi Yehuda. Ve'adarbe, et Rabbi Yehuda est revenu sur ses dires, il pense que les liquides ne peuvent pas rendre impur un ustensile. Donc c'est pour cela qu'on enlève les liquides qui sont cités dans le début de la Braïta, car là-bas nous avons dit qu'un liquide rend impur un ustensile. Alors on enlève cette partie-là, et on dit directement que le reptile a rendu impur l'ustensile, et l'ustensile la nourriture, et la nourriture des liquides. Et la Gemara nous dit, Vesimanach, et un moyen mnémotechnique de s'en rappeler, Nezaita. Nezaita, c'était ceux qui préparaient la bière d'orge. Alors d'abord, ils mettaient l'ustensile, après ils mettaient de la nourriture, c'est-à-dire l'orge, dans cet ustensile, et après ils mettaient de la boisson. Même ici, nous disons que d'abord l'ustensile est devenu impur, après la nourriture, et la nourriture a rendu impur la boisson. L'agma, nous continuons le shiur dans la prochaine cachette Bezrat Hashem. Shem, le shiur de Daf Kaf. Nous sommes Daf Kaf Amud Alef, 4 lignes avant la fin. Nanatam, nous avons enseigné là-bas dans une Mishnah. Sheret Shenimtsa Batano, si un reptile a été trouvé dans un four, Hapat Shepetocho, le pain qui se trouve à l'intérieur, Shnia est impur au second degré. Mipnesh Atano Trila, car le four en lui-même est impur au premier degré. C'est-à-dire que le reptile qui est une source d'impureté rend le four impur au premier degré, et le four qui est impur au premier degré rend impur le pain qui touche le four impur au second degré. Azamar le Rava da Barava le Rava, alors Rava da Barava lui a posé la question à Rava. Venir Zelai Tano, Kemande Maletuma, pourquoi ne considérons-nous pas ce four comme étant plein d'impureté, comme étant vetiave aipat rishona, et ce pain serait donc impur au premier degré? Car il y a une règle qui nous dit que lorsqu'un reptile se trouve à l'intérieur d'un ustensile en argile, même s'il ne touche pas cet ustensile en lui-même, toute la nourriture qui se trouve dans l'ustensile devient impure. Donc en fait, ça veut dire que nous considérons que le reptile, l'impureté du reptile, s'étale et s'éparpille et remplit tout l'ustensile. Alors de même ici, considérons que l'impureté du reptile s'étale dans tout le four, s'éparpille dans tout le four, et donc le four est rempli d'impureté, de cette source d'impureté du reptile, qui elle-même donc touche le pain, et donc le pain devient impur au premier degré. Amarle, alors il lui a répondu, lo salkadata, si tu ne peux pas penser une chose pareille, détagne, car nous avons enseigné dans une braïta. Yachol yu kol akelim metamim meavir kli cheres, j'aurais pu penser que tous les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur d'un ustensile en argile, dans lequel il y a un reptile dans l'air de cet ustensile en argile, pas qui touche l'ustensile en argile en lui-même, mais un reptile se trouve dans l'air. Par exemple, quelqu'un tient un reptile par la queue et le fait entrer à l'intérieur de cet ustensile en argile sans faire toucher les bords de l'ustensile. Alors si ça avait été de la nourriture qu'il y a dans cet ustensile en argile, comme nous l'avons expliqué plus haut, la nourriture devient impure même si le reptile n'a pas touché l'ustensile en argile. Alors j'aurais pu penser que s'il y a des ustensiles à l'intérieur de cet ustensile en argile, j'aurais pu penser qu'ils deviennent impurs.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Daf Kaf Amud Bet, Talmud Lomar, le verset nous dit, « Kol asher betocho yitma, tout ce qui se trouve à l'intérieur deviendra impur. » Et on a juxtaposé à ce verset, Mikol Ochel, de toute la nourriture. Et de là nous apprenons, Ochel mitamem avir kli cheres. De la nourriture devient impure par l'air d'un ustensile en argile. Ve'en kol akelim mitamem avir kli cheres. Mais les ustensiles ne deviennent pas impurs par l'air d'un ustensile en argile. Or, si nous considérons que lorsqu'on fait rentrer un reptile dans un ustensile en argile, alors l'impureté de ce reptile s'éparpille et remplit tout l'air de l'ustensile en argile. Alors, quelle différence y a-t-il si, à l'intérieur de cet ustensile, il y a de la nourriture ou il y a des ustensiles? Il n'y a aucune différence. Or, puisque nous voyons qu'il y a une différence, nous sommes obligés de dire que la raison pour laquelle, si un reptile est dans l'air d'un ustensile en argile, ça rend impur la nourriture, car c'est un décret de la Torah. Mais pas parce que nous considérons que l'impureté du reptile se remplit l'air de l'ustensile en argile. Et donc c'est pour cela que lorsqu'un reptile a été trouvé dans un four, le pain n'est impur qu'au second degré, car il touche le four qui lui-même est impur au premier degré, mais nous ne disons pas que nous considérons l'air du four comme étant rempli d'impureté, et que le pain c'est comme s'il touchait directement le reptile, et que ce pain est impur au premier degré. Rafriza, Ramé Pisra Apisra Umeshane. Rafriza posait une question des lois de Pessah aux lois de Pessah, et répondait. Et immédiatement, il s'explique. Mi amar Rabbi Yoshua, shteim ke'achat. Est-ce que Rabbi Yoshua a dit, et nous revenons sur ce que nous avons enseigné au début, dans la Mishnah, est-ce que Rabbi Yoshua a dit une chose pareille, que l'on a le droit de brûler de la terouma sur laquelle on a un doute, est-ce qu'elle est devenue impure ou pas, et de la terouma sur laquelle c'est sûr qu'elle est devenue impure? Est-ce qu'on a le droit de brûler ces deux teroumas ensemble la veille de Pessah? Ou mini, pourtant, nous avons enseigné, amar Rabbi Yossi a dit, he nalidon domé la raya. Lorsque Rabbi Yossi a voulu refuter Rabbi Meir, il lui a dit que le sujet ne ressemble pas à la preuve que Rabbi Meir a amenée. Pourquoi? Que chez Ido Rabotenu, car lorsque nos maîtres ont témoigné, Alma Idou, sur quoi ils ont témoigné, Ima la Bassar chez Nitma Bevladatuma, chez Sophie Moto Ima Bassar chez Nitma Bevatuma, soit sur de la viande qui est devenue impure, la viande sainte qui est devenue impure avec Vladatuma, avec une impureté à un moindre degré. Cette viande-là, on a le droit de la brûler avec de la viande qui est devenue impure, avec avatoma, en touchant une source d'impureté plus haute. C'est-à-dire, on a le droit de rendre impur à un plus haut degré de la viande qui était déjà impure à un plus bas degré. Alors ça, oui, nos sages ont oui témoigné. Pourquoi? Zetame, vezetame. Parce que ça, c'est impur, et ça, c'est impur. Mais de là, il n'y a pas de preuve qu'on a le droit de brûler de la trouma pure avec de la trouma impure la veille de Pessah. Ou alors, il y a un autre cas. Ou de l'huile qui est devenue pasoul, c'est-à-dire qui est devenue impure sans pouvoir rendre impure, car un tvoulium, quelqu'un qui s'est purifié le jour même et n'a pas fini sa journée de purification, l'a touché. Alors une huile pareille, chez Madlikin, Oto, Bener, Shenitma, Betmemet, on a le droit de l'allumer, cette huile, de faire une veilleuse dans un bougeoir qui est devenu impur en touchant quelqu'un qui est devenu impur en touchant un mort. Pourquoi? parce que zé pasoul, vezetame, cette huile est appelée pasoul, c'est-à-dire impur, sans pouvoir rendre impur. Et le bougeoir est appelé tamé, c'est-à-dire impur en pouvant rendre impur. Mais les deux, c'est-à-dire l'huile et le bougeoir, sont considérés comme étant impurs. Alors, afano modim, même nous, nous sommes d'accord, bitrouma shinitmet bevla la trouma, de la trouma qui est devenue impure en touchant une petite source d'impureté, chez Sophie motaim atrouma shinitmet beavatouma, qu'on a le droit de la brûler avec une trouma qui est devenue impure en touchant une source d'impureté importante. Car celle-là est impure, celle-là est impure. C'est vrai que c'est impur à un moindre degré, mais les deux sont considérés comme étant impurs. Aval ernisrof afilutluyaim matmea. Mais comment pouvons-nous brûler même la trouma sur laquelle on a un doute avec la trouma que c'est sûr qu'elle est impure? Pourquoi? Shema yavo Eliaou, de peur que Eliaou un avis va venir, vetarem, et va dire que cette trouma sur laquelle on a un doute, en fait, elle est pure. Et donc il va s'avérer qu'on va rendre de la trouma pure, on va la rendre impure en la brûlant. Chose qui est interdite. Donc nous voyons ici que l'avis de Rabbi Yehoshua est que même de la trouma sur laquelle on a un doute, on n'a pas le droit de la brûler avec de la trouma impure. Alors comment avons-nous pu dire que plus haut, que de la trouma sur laquelle on a un doute, on a le droit, oui, de la brûler avec de la trouma impure? Ou Meshane, et il répond, c'est-à-dire Rav Frisda répond, Ha Rabbi Shimon va libader Rabbi Yehoshua, Ha Rabbi Yossi va libader Rabbi Yehoshua. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yehoshua. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi, d'après Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, on a le droit de brûler la trouma sur laquelle on a un doute avec la trouma impure. D'après Rabbi Yossi, on n'a pas le droit. Et les deux parlent d'après Rabbi Yehoshua. Et la Gemara amène une preuve d'Etania, car nous avons appris dans une braïta. Yudalet shechal liot beshabbat. Lorsque le 14 Nissan, c'est-à-dire la veille de Pessah, tombe Shabbat, mais varim et akol milifne à Shabbat. On détruit tout le chametz depuis la veille de Shabbat. Vesofin trumot temeot tluyot veteorot. Et on a le droit de brûler ensemble la trouma impure, la trouma sur laquelle on a un doute, et les trouma pures. Divrei Reb Meir, ce sont les paroles de Reb Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, teora bifne atzma, vetluya bifne atzma, vetmea bifne atzma. La trouma pure à part, la trouma sur laquelle on a un doute à part, et la trouma impure à part. Amar Rabbi Shimon a dit, l'on échelécou Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à la Torah et à la Tmea, sur la Trouma pure et la Trouma impure. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, qu'on n'a pas le droit de les brûler ensemble, car on va rendre impure la Trouma pure. À la Trouya et à la Torah, la Trouma sur laquelle on a un doute et la Trouma pure, il n'y a pas de discussion non plus, chez Sophim, qu'on a le droit de les brûler ensemble. Alman échelécou. Sur quoi il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? À la Tlouya et à la Tmea. Sur la Trouma sur laquelle on a un doute avec la Trouma impure. Est-ce qu'on a le droit de les brûler ensemble ou pas? Chez Rabbi Eliezer, Omer, Tissarev Zoubasma, Vezoubasma. Car Rabbi Eliezer dit qu'on brûlera celle-là à part et celle-là à part. Ve Rabbi Yehoshua, Omer, et Rabbi Yehoshua dit, j'te un karat. On brûlera les deux ensemble. Et on a, oui, le droit de les brûler les deux ensemble. Donc nous voyons ici que Rabbi Shimon explique, d'après Rabbi Yehoshua, qu'on a, oui, le droit de les brûler les deux ensemble. Mais Rabbi aussi, lui, lorsqu'il explique Rabbi Yehoshua, il pense qu'on n'a pas le droit de les brûler les deux ensemble. Alors la Gemara demande, Ve'amatnitin, Rabbi aussi. Pourtant notre Mishnah, c'est Rabbi aussi. Et dans notre Mishnah, il est dit qu'on a, oui, le droit de brûler la trouma sur laquelle on a un doute avec la trouma impure. Comme nous l'avons vu plus haut, Daf, Yudalet, Amudalef, Alman et Chlekou, sur quoi ils ont discuté, et nous ramenons ici la Mishnah de Daf Yudalet Amudalef, à la Trouya Valatmea, sur la Trouma sur laquelle il a un doute, et la Trouma impure, chez Rabbi Eliezer, Omer, Tisarev, Zulatma, Vezulatma, que Rabbi Eliezer dit, on brûlera celle-ci à part et celle-là à part, et Rabbi Yehoshua, Omer, Shtem, Kachat, et Rabbi Yehoshua dit qu'on les brûlera les deux ensemble. Et cette Mishnah, Daf Yudalet Amudalef, c'est Rabbi aussi, comme nous avons vu au début, Amar Rabbi aussi a dit. Donc en fait, nous voyons que ici, lorsque Rabbi Yossi vient expliquer Rabbi Yehoshua, il dit qu'on a, oui, le droit de brûler la trouma impure et la trouma sur laquelle on a un doute ensemble. Alors comment pouvons-nous dire que Rabbi Yossi pense qu'on n'a pas le droit de la brûler ensemble? Alors Agmar répond, Achikamar, c'est ainsi qu'il faut expliquer la Mishnah d'Af Yudalet. Rabbi Yossi le Rabbi, c'est ainsi que Rabbi Yossi lui a dit à Rabbi Yossi, Afilu Rabbi Shimon va libader Rabbi Yehoshua, même d'après Rabbi Shimon, lorsqu'il explique les paroles de Rabbi Yehoshua, Ademekel, qui est le moins sévère que nous avons trouvé, et qui met qu'elle, lorsqu'il est moins sévère, c'est Bitluya Vetmea. c'est dans la trouma sur laquelle on a un doute avec de la trouma impure. Aval beteora betmea, mais avec de la trouma pure et de la trouma impure, l'eau, c'est sûr que il ne permet pas de la brûler. Et Rabbi Yossi lui-même, lui, il pense que même la trouma sur laquelle on a un doute avec la trouma impure, on n'a pas le droit de la brûler. Donc en fait, lorsque Rabbi Yossi s'exprimait dans la Mishnah de Fudalet Amud Aleph, ce n'était pas son propre avis, mais il disait d'après Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara rapporte une autre question. Rabbi Yossi Bar Chanina, Ramet Trouma Pisra. Rabbi Yossi Bar Chanina posait une question des lois de Trouma sur les lois de Pessah. Umeshane répondait à cette question. Mi Amar Rabbi Yoshua, Shtem Kiachat. Est-ce que Rabbi Yoshua dit une chose pareille, qu'on a le droit de brûler les deux en même temps, c'est-à-dire de la Trouma sur laquelle on a un doute avec de la Trouma impure? La veille de Pessah, on a le droit de le brûler. Omini, ou pourtant nous avons enseigné dans une breta, Chavit Shel Trouma, Shenolad Basafek. Un tonneau dans lequel il y avait par exemple du vin de Trouma, sur lequel est né un doute. Ça fait que Trouma, est-ce qu'il est devenu impur ou pas? Alors Rabbi Eliezer Omer, si ce tonneau était déposé dans un endroit dévoilé, on devra le poser dans un endroit caché. Et s'il était découvert, on devra le recouvrir. C'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, on le considère comme étant encore de la Trouma pure, et on a encore une mitzvah, une obligation de faire attention et de le garder qu'il ne devienne pas impur. Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua dit, non, on n'a plus cette obligation. Et c'est pour cela que, même si elle était déposée, si ce tonneau était déposé dans un endroit caché, on a le droit de le poser dans un endroit dévoilé, où tout le monde peut le toucher. Et si ce tonneau était couvert, on a le droit de le découvrir. Donc nous voyons ici, ça, c'est ce que Rabbi Yoshua a dit. Alors, la Gemara prend de là. Grama in, beyadaim lo. Nous voyons que d'après Rabbi Yoshua, un tonneau sur lequel est né un doute, un tonneau de Trouma sur lequel est né un doute, alors on a le droit d'entraîner qu'il devienne impur. Mais de le rendre impur directement, non. Or, la veille de Pessah, nous voyons qu'on a le droit de prendre la Trouma sur laquelle il y a un doute qui est né, avec de la Trouma impure et de les brûler ensemble. C'est-à-dire de le rendre impur directement. Ou Meshane, alors il répond, Ha Rabbi Shimon, alibadé Rabbi Yoshua. Ha Rabbi Yossi, alibadé Rabbi Yoshua. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon d'après Rabbi Yoshua. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi d'après Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, de même que nous avons vu plus haut qu'il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, est-ce que Rabbi Yoshua a permis de brûler de la Trouma sur laquelle est né un doute avec de la Trouma impure la veille de Pessah? Alors, il y a exactement cette même discussion. C'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon qui permet de brûler de la Trouma impure la veille de Pessah avec de la Trouma sur laquelle il y a un doute qui est né, alors lui, il pense que de la Trouma sur laquelle il y a un doute qui est né, d'après Rabbi Shimon, on a le droit directement de la prendre impure. Pas seulement d'entraîner une impureté. Et Rabbi Yossi, qui lui pense qu'on n'a pas le droit de brûler de la Trouma sur laquelle il y a un doute qui est né la veille de Pessah avec de la Trouma impure, lui, il pense qu'on a le droit juste d'entraîner une impureté et pas de le rendre impur directement. Et donc, cette Mishnah qui nous dit que Rabbi Yoshua a dit qu'on a le droit d'entraîner une impureté sur un tonneau dans lequel, par exemple, il y a du vin de Trouma sur lequel est né un doute, alors ça, c'est suit l'opinion de Rabbi Yossi, qui nous dit qu'on a le droit d'entraîner une impureté, mais on n'a pas le droit de le rendre impur directement. Et la Gemara continue. Rabbi Lazar ramet Trouma à Trouma au Meshane. Rabbi Lazar posait une question des lois de Trouma sur une autre loi de Trouma et répondait à cette question. Et immédiatement la Gemara s'explique. Umi amar Rabbi Yoshua grama in beyadaim lo. Rabbi Yoshua a-t-il dit une chose pareille, qu'on a le droit d'entraîner l'impureté, mais qu'on n'a pas le droit de la rendre impure directement? Umi nous, pourtant nous avons enseigné dans une breita, chavit shel Trouma shenishbera bagata eliona, lorsqu'un tonneau contenant du vin de Trouma s'est cassé dans le pressoir supérieur, et dans le pressoir inférieur, il y a du vin profane qui est impur. Modé Rabbi Eliezer le Rabbi Yoshua, Shim Yachol Latil Mimina Revit Betara, y a-t-il? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que s'il peut sauver ne serait-ce qu'une mesure de un Revit de Trouma et de le mettre dans des ustensiles purs, alors tout le reste, il devra le laisser couler dans le pressoir inférieur, même si comme cela, ça se perd. Veim Lav. Mais s'il ne peut pas, c'est-à-dire que même en recherchant des ustensiles, il ne trouvera pas des ustensiles purs, et de toute façon, il n'arrivera pas à sauver, ne serait-ce qu'une mesure d'un révite de Trouma en pureté, Alors Rabbi Eliezer omer teret vetitma ve'alitma en abayan. Rabbi Eliezer nous dit que le vin coule dans le pressoir inférieur et qu'il devienne impur, mais qu'il ne le rende pas impur directement. Et Rabbi Yoshua omer, Rabbi Yoshua dit, yitma'en abayan. On a oui le droit de le rendre impur directement, c'est-à-dire on a le droit de récupérer le vin dans des ustensiles impurs, même si en cela on rend impur la trouma. Et le but, en fait, de récupérer le vin est que le vin de trouma ne tombe pas dans le vin profane qui se trouve dans le pressoir inférieur. Car si le vin de trouma tombe dans le vin profane qui se trouve dans le pressoir inférieur, alors on n'aura plus rien à faire avec ce vin. Car le donner au Kohen, on ne pourra pas le donner. Étant donné qu'il est impur, le Kohen ne pourra pas le boire. Et que le Israël ne puisse le boire, c'est aussi impossible. Car il y a du vin de trouma qui est mélangé à ce vin profane. Or, un Israël n'a pas le droit de boire du vin de trouma. Donc en fait, ce vin est perdu. Alors, c'est pour cela que Rabbi Yoshua dit qu'on a le droit de rendre impur le vin de trouma qui se trouve dans le pressoir supérieur, afin de ne pas perdre le vin qui se trouve dans le pressoir inférieur. Mais donc, nous voyons d'ici que d'après Rabbi Yoshua, on a le droit de rendre impur directement. Alors pourquoi plus haut il nous a dit qu'on a le droit juste d'entraîner une impureté au Meshaneh? Alors Gemara répond, Shaneh Atam, là-bas c'est différent, c'est-à-dire dans le cas du pressoir c'est différent, Deka et Setroulin, car si on ne permet pas de rendre impur, il y a la perte du vin Roulin. Or, comme il y a la perte de ce vin, qui est une grande perte, c'est pour cela qu'on l'on permet de rendre impur directement. Matkifla Rava, alors Rava pose une question. Matininami Ka et Setim. Dans notre Mishnah aussi, il y a la perte des bois, c'est-à-dire si on ne permet pas de brûler la trouma impure avec la trouma impure, alors on va devoir faire deux bûchers séparés. Et si on fait deux bûchers séparés, on va devoir utiliser deux fois plus de bois. Donc c'est aussi une perte. Alors permettons de brûler la trouma impure avec la trouma pure ensemble. Or Rabbi Yoshua ne le permet pas. Azamar le Abaye, Abaye lui a répondu, l'efsed merubé chacheshu, l'efsed moat lo chacheshu. Une grande perte, les chachamim ont craint, c'est-à-dire les chachamim ont craint à cause d'une grande perte, et c'est pour cela qu'ils ont permis de rendre impur directement. Mais une petite perte comme le bois du bûcher, ça les chachamim n'ont pas permis, à cause de cette petite perte-là, de rendre impur directement la trouma. Uminat emra de l'efsed merubé chacheshu, l'efsed moat lo chacheshu. Et d'où savons-nous qu'à une grande perte, les chachamim ont craint, mais les chachamim n'ont pas craint une petite perte? D'Etania, que nous avons enseigné dans une braïta. Chavit shel shemen, trouma. Un tonneau contenant de l'huile, trouma. Shenishbera bagat eliona, qui s'est cassé dans le pressoir supérieur. Ou batartona, et dans le pressoir inférieur, chulint meim, il y a de l'huile profane, impure. Et donc, c'est exactement le même cas que plus haut. Et donc, si l'huile d'en haut va couler vers le bas, l'huile d'en bas va être un mélange d'huile profane et d'huile trouma impure, et donc il n'y a plus rien à faire avec. La donner au Kohen, on ne pourra pas, car c'est de l'huile impure, et donc il n'aura pas le droit de la boire ou de l'utiliser pour sa cuisine, et que le Israël la garde non plus, on n'aura pas le droit, car il y a de l'huile trouma qui est mélangée. La seule chose qu'on pourra faire, c'est la donner au Kohen pour qu'il l'utilise en tant que veilleuse. Alors dans un cas pareil, malgré tout, modère Rabbi Eliezer les Rabbi Yoshua, Shim yachol atil mimena revit betara yatil. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord que s'il peut sauver ne serait-ce qu'une mesure de un revit dans un ustensile pur, il devra sauver et le reste il devra laisser couler dans le pressoir inférieur et le rendre impur. Veim lav, mais sinon, teret betitame valit maina bayal. Que sinon, elle coule et qu'elle devienne impure toute seule, mais qu'il ne la rende pas impure directement. C'est-à-dire que même Rabbi Yoshua est d'accord que on ne la rendra pas impure directement. Donc nous voyons que l'huile, étant donné qu'il y a oui une petite utilisation qu'on peut faire avec cette huile, par exemple la donner au Kohen pour qu'il l'utilise en tant que veilleuse, alors ça Rabbi Yoshua dit, alors dans un cas pareil, on ne permet pas de rendre impur directement, car ce n'est pas considéré comme étant une grande perte. À propos du vin, étant donné que le vin est complètement perdu, alors dans un cas pareil, oui, on permet de le rendre impur directement, car c'est considéré comme étant une grande perte. Alors ma demande, quelle différence y a-t-il entre le vin et l'huile? L'huile, on peut l'utiliser pour l'allumer en tant que veilleuse. Il y a une amie, Raoul et Zilouf. Le vin de trouma impur aussi, on peut lui trouver une utilisation. Quelle utilisation? On peut en asperger la maison. Il y avait une habitude, à l'époque de la Gemara, d'asperger la maison de vin pour donner une bonne odeur de vin dans la maison. Alors, on a le droit d'utiliser le vin de trouma pour en asperger la maison, c'est-à-dire pour donner une bonne odeur. Alors c'est vrai qu'il est impur, et le boire, on ne peut pas le boire, le Kohen n'aura pas le droit de boire, mais il aura le droit d'utiliser pour en asperger la maison, et donc c'est pas considéré comme étant une grande perte. Alors pourquoi Rabbi Yoshua permet de le rendre impur directement? Et peut-être que tu vas me dire que le fait d'asperger la maison, ce n'est pas une chose importante. Pourtant, Shmuel a dit, Mishum Rapria, au nom de Rapria, Shotin Milouk Besela. Pour boire du vin, alors on peut boire du vin, du vin qui a une valeur que pour une mesure de un loug, on l'achète à un sela. Ou mesalfin, mais si on veut en asperger la maison, Milouk Bestein, il faut acheter du vin qui a une valeur pour un loug de deux sela, c'est-à-dire qu'il vaut deux fois plus cher. Car le fait d'asperger la maison, il faut utiliser du très bon vin, car c'est quelque chose de très important, ça donne une très bonne odeur. Donc nous voyons que le fait d'asperger de vin la maison, c'est oui quelque chose d'important. Et donc, ce n'est pas considéré comme étant une perte. Alors pourquoi Rabbi Yoshua, à nouveau, la question revient, pourquoi Rabbi Yoshua permet de rendre impur directement le vin? Alors on répond ici, Bechadash, nous parlons du vin nouveau. Or, le vin nouveau qui n'a pas eu le temps de vieillir, alors on ne peut pas l'utiliser pour en asperger la maison, car son odeur n'est pas une bonne odeur, autant que le vin ancien. La Gemara demande, va raouli yeshno. Pourtant, on peut le laisser vieillir, et à ce moment-là, il aura, oui, une bonne odeur. Alors, pourquoi, à nouveau, on a le droit de le rendre impur directement? C'est-à-dire, laissons le vin de trouma, laissons-le couler dans le pressoir inférieur, et après, laissons-le vieillir dans des tonneaux, et lorsque ce vin de trouma mélangé à du vin profane impur sera vieux, on pourra l'utiliser pour en asperger la maison. Alors, la Gemara répond, atebeli detakala, on peut en venir à faire des erreurs à cause de cela. C'est-à-dire, si on fait vieillir chez soi du vin impur, le Kohen peut peut-être un jour se tromper et penser qu'il est pur et en venir à le boire. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne vaut mieux pas le laisser vieillir chez soi et qu'on permet de le rendre impur directement dans des ustensiles, le vin de trouma dans des ustensiles, et de pas rendre impur le vin profane, et de pas rendre inapte à la consommation le vin profane en le mélangeant avec la trouma. Alors la Gemara répond, la Gemara demande, Shemenami atebeli detakala. L'huile aussi, on peut en venir à faire des erreurs, car étant donné que c'est de l'huile de trouma impure, si on la garde chez soi à la maison, alors peut-être qu'on va en venir à la boire. Alors ma réponse, deramele beklimaus. Non, que cette huile de trouma qui est devenue impure, on la dépose dans un ustensile qui est sale, et donc c'est sûr qu'on ne l'utilisera que pour éclairer, pour l'éclairage, c'est-à-dire pour allumer des vieilleuses. Mais le bois, on n'en verra pas, car l'huile est déposée dans l'ustensile sale. Alors la Gemara demande, alors c'est ainsi, il y a une amira, mais les beklimaus, déposons aussi le vin dans un ustensile sale. Et donc, à ce moment-là, on ne viendra pas à une erreur de boire ce vin. Alors la Gemara répond, non, ça c'est pas possible. Les ilouf kabaele, beklimaus ramele. On en veut ce vin, hein, pour en asperger la maison et donner une bonne humeur, une bonne odeur. On va le mettre dans un ustensile sale qui va lui donner une mauvaise odeur. C'est pas logique. C'est pas possible. Donc c'est pour cela que le vin, on est obligé de le mettre dans un ustensile propre. Et donc, puisqu'on va le mettre dans un ustensile propre, on risque de venir à se tromper et de le boire. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas le garder chez soi. La Gemara nous dit maintenant, Vetakala atzma, et cette loi-là que nous disons que on craint qu'on va en venir à faire une erreur, cette loi-là, elle-même, Tanaï. C'est une discussion entre Tanaï. Des Tanaï, quand nous avons enseigné dans une braïta. Chavit shel yain shel truma. Un tonneau contenant du vin de truma. Shenitmet, qui est devenu impur. Alors, Bet Shammai, oui, un petit chapé chevel. Que Bet Shammai nous dise, on devra le jeter immédiatement. Ou Bet Hillel, omrim, et Bet Hillel disent, tia sezilouf, on aura le droit de l'utiliser pour en asperger la maison. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi a dit, allez Achia, moi je vais départager entre ces deux avis. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose je vais prendre compte des deux avis. Comment cela? Basade t'échappe chevel. Si cet oiseau est devenu impur dans le champ, alors on le jettera immédiatement. Babait, mais s'il est devenu impur à la maison, qui a ses ilouf, on l'utilisera pour en asperger la maison. Ikadam, il y en a qui disent, Bechadash t'échappe chevel. Que Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi a dit que si c'est du vin nouveau, alors on le jettera immédiatement. Beyachan, si c'est du vin ancien, du vin vieux, qui est bon, qui a ses ilouf, on l'utilisera pour en asperger la maison. C'est-à-dire que Rabbi Shmuel nous dit, si, d'après la première explication de Rabbi Shmuel, si c'est dans le champ, on craint que le temps qu'on l'amène à la maison, etc., il en vienne à se tromper et à en boire. C'est pour ça qu'on le jettera immédiatement. Mais si on est déjà à la maison lorsque ce bain est devenu impur, alors immédiatement on aspergera les murs car il n'y a pas à craindre à en venir à une erreur. Ou alors, suivant la deuxième explication, si c'est du vin nouveau, on peut craindre que lorsqu'il va le faire vieillir, il va en venir à se tromper et à le boire. C'est pour cela qu'il devra le jeter immédiatement. Mais si c'est déjà du vin ancien, alors on pourra l'utiliser pour en asperger la maison. Azamroulo, ils lui ont dit, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.